Hello François.
Voilà. Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Écoutez, on se
Désolé,
savait.
ce sont les aléas du direct.
Eh ben voilà, les aléas du direct,
Eh oui, Simone!
c'est ce que nous disions. Donc, bah ouais, c'est des choses qui arrivent avec les systèmes électroniques. De temps en temps, eh bien, on perd les connexions. Et puis après, bah voilà. On ne peut plus converser ensemble. Bon, comment ça va, François?
Eh bien, ça va très très bien. Vous l'avez vécu sur la vidéo. J'étais un peu occupé, mais là, comme vous le savez, nous avons le plaisir d'avoir ce matin un invité qui est Samuel Guibert du MAS de Domas-Gassac.
Absolument. On va parler tout à l'heure du Pétrus du Languedoc. Moi, vous savez, j'ai bien retenu. Donc, je suis impatient. Ça, on va en parler dans 2 minutes. Ce que je voudrais juste avant, c'est que vous répondiez à la question que vous posez Jean-Guillaume.
Répondez aux questions, s'il vous plaît, François.
Voilà. La question, bah, elle était simple. Avec quoi? Avec quel vin allez-vous proposer pour accompagner la recette du jour?
La quiche
Et moi,
lorraine.
alors je vais vous poser une question. Vous préférez rouge ou vous préférez blanc?
Eh ben moi, je préférerais qu'il y en ait un de chaque.
Oh là 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 là, il lui complique la vie.
Non,
Alors, c'est.
non, mais un blanc et un rouge, parce qu'effectivement, je trouve que ça peut marcher avec les deux sans problème.
Savez, ce que j'aurais aimé, François, c'est que vous puissiez me dire. Alors, par exemple, Jean-Guillaume dit enfin, vous n'ayez proposé, par exemple, que les blancs et que vous n'ayez pas travaillé pour les rouges, et que Jean-Guillaume dit bah, moi, je voudrais bien un rouge. Eh bien, justement, donc pour les blancs aujourd'hui, eh bien, voilà ce qu'on va proposer. Donc, comme ça, moi, vous faites une réponse
Non, mais un blanc, un
préparée.
rouge,
Le
François,
pauvre,
c'est
là, vous le
possible.
plantez. Allez,
Alors, un
allez-y,
blanc, un
François.
rouge.
Mais il aura réponse à tout. Toujours Blood Wine.
Alors, attendez, je vais vous le dire, on va trouver.
Regardez, Monsieur
On va
Blood Wine
trouver
est en
quelque
train de se
chose.
promener dans son grand commerce où
Mais
il
je
y
ne
a de
vois pas,
très,
moi.
très nombreux
Je sais
vins
pas comment ça se
exposés.
fait.
Et là, il est en train de nous chercher la solution. Voilà, donc je
Je
rappelle que si vous voulez aller
ne vois pas
au
Blood
restaurant
Wine.
Blood Wine, eh bien, enfin, au restaurant Blood
Bah
Wine,
non,
au
Blood Wine, c'est pas un
commerce. Mais
restaurant.
non, mais vous
C'est un
savez,
caliste.
vous m'avez
Non,
appris
au
depuis tout
restaurant
à
Le
l'heure,
Samoil
au restaurant
et
Le Samoil et
chez
chez Blood Wine.
Blood
Blood
Wine.
Wine, c'est principe réel. Voilà.
Alors, je vais vous répondre à votre question. Rouge ou inter portugais? On va aller
Ouais.
sur on va aller sur un vin du Douro qui a pas trop de tanins, qui va
Ouais.
bien marcher avec notre quiche. On est sur une quiche Lorraine, donc avec des lardons. Et on va aller vers le Passagem, qui est un vin gourmand, relativement léger, principalement sur la Touriga nationale, mais un vin relativement jeune, qui va trouver un bon équilibre avec notre quiche Lorraine et en vin
Ouais.
blanc. Eh bien, en vin blanc, je vais faire honneur à notre invité. On va partir sur un vin du Mas de Domas-Gassac qui s'appelle le Pont de Gassac, qui est un vin blanc qui va avoir des arômes qui vont très très bien accompagner notre recette du jour. Et je pense que Samuel pourra nous en parler un petit peu plus en détail, mais je pense que c'est un très bon équilibre, un vin de plaisir pour accompagner des plats agréables d'été.
Donc Samuel Guibert, c'est celui qui fait les vins de quiche.
Oh, alors ça, c'est pas simple.
Oh bah je rentre direct moi.
Ah,
Un résumé facile.
le résumé facile. Bon, bah justement, on va avoir Samuel tout de suite en ligne. Alors, Samuel, juste avant que vous connectiez, d'abord, bonjour, on est ravis de vous accueillir sur l'antenne de la French Radio. Donc là, vous allez nous parler, vous êtes dans la région du Languedoc. François nous a déjà un petit peu mis le vin à la
L'eau à
bouche.
la bouche.
François
Le
n'arrête
vin à
pas de
la
parler
bouche,
de
pas
vous.
l'eau à la
N'arrête pas de
bouche.
parler de vin à la bouche.
L'eau à la bouche. Mais non!
Ah, j'étais dans le Gainsbourg déjà, moi.
Le vin à la bouche. Mais alors surtout, il y a quelques instants, l'os à moelle, qui est quand même la référence en restaurant de viande sur Lisbonne, eh bien, a parlé justement de l'un de vos vins. Et waouh!
En disant merveilleux.
En disant merveilleux. Et encore, ce n'était pas les premiers
Je
crus.
ne
Donc,
crois que ce que je goûte.
là, on est impatient de vous écouter. Bonjour, ravi de vous avoir.
Bonjour Thierry, bonjour François, bonjour à tout le monde. Et ben Samuel Guibert, donc vigneron propriétaire du domaine du Mas de Domagassac, qui est situé au nord de Montpellier, dans le sud de la France, déconfiné depuis lundi, même si ça ne change pas grand-chose pour nous, puisque depuis 2 mois, on suit la viticulture. Vous savez, c'est le moment où tout se crée, tout se passe, hein. Les bourgeons qui sortent, les feuilles qui sortent, la fleur qui vient de sortir depuis 2, 3 jours. Donc, le
Ah,
moment
ça y est, vous
critique
avez
aussi.
fleuri là.
Là, on a fleuri, effectivement, sur les premiers cépages, les chardonnays, les viogniers, les rouges, ça sera plus tard. Mais les premières fleurs sortent et c'est une indication importante parce que l'on compte à environ ici 100 jours à partir de la mi-fleur jusqu'à la vendange. Pour les rouges, 110 jours environ. Donc, on est sur une année, une semaine plus tôt que l'an passé. On peut prévoir des vendanges fin août au lieu d'être le 2 ou le 3 septembre.
Ce qui est mieux parce que je pense quand même que le problème... Vous attendez toujours les vendanges, mais comme vous êtes dans une région quand même où il y a des orages qui peuvent être fréquents à une certaine période, c'est toujours peut-être mieux, je ne sais pas, que ça soit plus tôt au mois d'août pour éviter des intempéries.
Alors, ce qu'on appelle, nous, ce qu'on peut avoir ici, ce sont les épisodes Cévenol, qui arrivent généralement plutôt au mois d'octobre. En moins de quelques heures, vous avez... pas un mètre d'eau, mais vous avez 60 mm et ça va très très vite. En général, on y échappe. La dernière fois où il a fait des pluies torrentielles au mois de septembre, c'était en 2002. Donc ça remonte quand même à 18 ans. Ça avait été une année assez compliquée pour beaucoup de gens dans le sud de la France. En général, on dit que le sud de la France, le Languedoc-Roussillon, est une région bénie des dieux pour ce qui est du climat. On a très peu de variations. Le risque, c'est plutôt trop de soleil qui pourrait amener à des vins un peu trop confits, manque d'acidité, déséquilibré, etc. Dieu merci, à Domagassac, nous avons droit à un petit microclimat qui provient de l'effet Piémont du Massif central et du plateau du Larzac qui est à quelques kilomètres de chez nous et qui permet d'avoir un microclimat très froid qui s'enferme dans cette petite vallée qui apparaît même pas sur Google Maps puisqu'on parle de 45 hectares mélangés ou perdus au milieu de 6000 hectares de garrigue, de la forêt méditerranéenne, et qui permet de conserver, d'avoir une maturation des raisins beaucoup plus lente et qui nous permet aussi de vendanger en général 2 semaines plus tard que nos voisins.
Ouais, vous n'êtes pas dans un four, vous. Vous êtes dans
le contraire. Nous ne sommes pas un four, même si l'année dernière, quelque chose qui me fait... on a eu un épisode absolument unique depuis toujours. Le 27 juin 2019, la température est montée à 49,7 degrés. Donc, c'est pratiquement en pleine journée, pendant 1 heure ou 2 heures, à brûler tous les cépages précoces. On a perdu 40% de la production. C'est du jamais vu, de mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça. Mais tout se passait bien, on avait échappé aux maladies, on avait une belle sortie. Et 49, c'est pratiquement 50 degrés. Ouais. Même en plein mois juillet, même en plein mois d'août, on n'a jamais ce genre de température. Ça serait arrivé un mois plus tard, on n'aurait pas perdu parce que la véraison se serait faite et les raisins auraient été déjà en bon état. Là, au mois de juin, sur du raisin vert, ça a brûlé. C'est comme mettre la tête devant un four ouvert.
Et du coup, vous avez des récoltes faibles?
Ça fait 3 ans qu'on subit ce que la Bourgogne a connu pendant 4 ans entre 2012 ou 2013 et 2017. Nous, on a 2017, 2018, 2019, pour diverses raisons chaque année. Une année, ça a été le gel. Une autre année, ça a été trop de pluie, ce qui est très rare ici. Et l'année dernière, ça a été le coup de chaud, où on a environ moins 30 ou moins 40%. On peut s'estimer heureux, il y en a qui sont à moins 80%, on n'a pas eu la grêle, on va toucher du bois pour cette année. Mais effectivement, 3 années un peu compliquées sur le point de vue des quantités. Du point de vue qualité, c'est au rendez-vous, mais les quantités n'y sont pas.
Et vous avez des rendements assez importants en plus sur les...
Alors, pas du tout. Sur le Domagassac, on est à 30 hecto-hectares, voire moins. Là, on parle du grand, ce qu'on appelle le grand cru, le domaine fondé par mes parents dans les années 60-70, qui est connu comme le grand cru de cette région, qui fait une toute petite production d'un vin rouge distribué, prévendu environ 73 pays dans le monde. Idem pour le blanc, ça représente moins de 4000, on va parler en bouteilles, ça représente moins de 20 000 bouteilles de blanc qui sont vendus sur 70 pays dans le monde, vous imaginez, vous divisez ça par des restaurants, etc., ça va très vite. Donc non, sur le Domagassac, nous sommes sur des tout petits rendements, donc moins 40%, c'est comme si vous prenez un restaurant qui a 100 sièges et pendant une année, vous lui dites, vous n'en aurez que 60. C'est à peu près ça et il faut vivre avec. Ensuite, nous avons un second domaine où est produit le pont de Gassac, dont parlait François un peu plus tôt. Et là, sur des rendements un peu plus importants, sans être non plus très haut, puisqu'on est sur des collines, des sols qui permettent de faire travailler la vigne sans qu'elle arrive en surproduction.
Ouais, sans faire pisser.
Alors justement, François, on ne vous entend pas.
Ah bah voilà. Alors, je vais vous parler du Mas de Domas Gassac.
Bah ouais, parce que
c'était mon introduction. Mais je vais vous le dire quand même. Moi, j'ai découvert, alors, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à parler des vins du Languedoc. Et donc, je m'y suis intéressé. Et la première fois où j'ai goûté le Mas de Masgassac, donc le vin du domaine qui est le plus connu en rouge, j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré que bien des années plus tard, quand on a décidé de lancer Blood Wines, la première personne que j'ai contactée et la première personne qui nous a fait confiance, c'est Samuel. Donc, on est aujourd'hui distributeur de tous les vins du domaine. Et ce qui est super important, et je pense que Samuel va en parler aussi, c'est que vous avez des vins qui sont extrêmement connus sur des petites quantités, mais vous avez aussi des vins sur certaines parcelles qui sont commercialisés sous le nom Moulin de Gassac et qui sont des vins fabuleux. Et là, on parle de prix parce que c'est souvent des choses qu'on regarde. Vous avez des prix qui vont entre 7 et 12 euros pour des vins vraiment très, très agréables, très sympas, avec lesquels on a un grand succès auprès des clients et des consommateurs. Et ça, je crois que c'est toute la force d'un domaine comme le Mas de Masgassac, d'avoir su être un peu des pionniers sur les vins de cette région et après d'avoir su développer toute une gamme de vins qui sont des vins très agréables. Donc, je pense que c'est ce que j'avais demandé à Samuel, de parler un petit peu du projet. Il a évoqué ses parents, que c'est un projet tout à fait original.
Si vous voulez, on va essayer de résumer une histoire de 50 ans, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples de vins qui ont atteint ce statut de ce que les anglo-saxons appellent cult wine ou d'icône. En général, on parle plutôt de 200 ans, de siècles avant que les Grands Bourgognes et les Grands Bordelais soient reconnus comme des grands crus. Domagassac, c'est une histoire de 50 ans, plantée, découverte d'un vieux mas qui s'appelle le mas Domagassac. Mas, dans le sud de la France, ça veut dire une ferme. Domas, c'était le nom de la famille qui était les fermiers là pendant 9 ou 10 générations avant que mes parents rachètent le mas pour en faire une maison, la maison où mes 4 frères et moi avons grandi. Derrière, avec la ferme, vient environ 30 hectares autour de la ferme en abandon, où il n'y avait pratiquement pas de vigne, juste une petite vigne de clairette, un cépage blanc, connu dans le sud de la France. Et quand on parle aux anciens du village, ils disent que déjà le vin qui venait de Domagassac ou de Domas, du Mas Domas, était reconnu quand ils l'amenaient au bal du village ou pour célébrer certains mariages. Derrière, mon père, un très bon ami, le professeur Henri-Ange Albert, qui est titulaire de la chaire de géologie de Bordeaux, donc un universitaire mais spécialiste en terroir, en sol, qui vient passer quelques jours, qui, à la demande de mes parents, découvre que dans le sol, je le cite, à Domagassac, existe un terroir similaire à celui de la Côte d'Or, en Bourgogne, mais quand même un peu différent, et un terroir surtout qui a la possibilité de faire à terme un grand cru. Ce professeur Henri-Ange Albert, connaissant bien l'histoire du vin, rajoute aussi, attention, ça vous prendra peut-être 200 ou 300 ans avant d'y arriver. Il se trouve que c'est allé plus vite que prévu. Rapidement, mes parents ont adopté donc la viticulture en 72, plantée du Cabernet Sauvignon, ce qui n'existait pas en Languedoc. Je replace les choses dans leur contexte. En 70, en Languedoc, on disait effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, on vous disait faire pisser la vigne, on parlait de bibine. Le Languedoc avait fait des fortunes.
C'était le vin de table, hein, c'était vraiment c'était le vin ça, de table. On le coupait avec le vin d'Algérie et puis c'était parti.
Et puis ça permettait d'abreuver le monde entier de vins pas chers à l'époque où seule la France. Acceptable puisque seule la France exportait du vin. L'Italie et l'Espagne n'en exportaient pas vraiment et il n'y avait pas encore l'Australie, le Chili et tous les autres. Par contre, quand la compétition des autres pays est arrivée, tout d'un coup, le Languedoc s'est retrouvé le bec dans l'eau et ceux qui avaient fait des fortunes et bâti des châteaux du côté de Béziers pendant des années, tout d'un coup, avec la problématique de vendre du vin, produire du vin, mais aussi arriver à le vendre. Et en même temps, à Domagassac se découvre un terroir. Mes parents se lancent dans cette grande aventure qui est celle de dire bon, on va faire ça comme un hobby. Mais le hobby, en moins de 3 ans, première récolte en 78, en 81, le grand journal à l'époque du vin français, Goemio, titre « J'ai découvert un Lafite en Languedoc ». Derrière, 6 mois plus tard, le premier magazine du vin en Angleterre déclare plutôt un Latour qu'un Lafite. Et enfin, dans le troisième très grand marché du vin à l'époque, la Hollande, un grand journaliste écrit un Petrus en Languedoc. Donc ça a permis, ça a lancé la machine. Après, ça ne suffit pas, il faut assurer en termes de qualité, etc. Mais ça a attiré un projecteur dans une région où il n'y avait rien, que l'on passait à l'époque. Quand je dis rien, il n'y avait ni vin, entre guillemets, intéressant, ni restaurant. Il n'y avait pas de tradition de restauration. Il n'y avait pas de restaurant Michelin, etc. On traversait le Languedoc pour aller en Espagne sur la côte.
C'était une région pauvre. C'était une complètement. Région pauvre. Et les, ça reste... les vignerons, ils crevaient de faim là-bas.
Exactement, on a et on commençait à arracher les vignes.
À la fin des années 70, des émeutes, justement, quand à l'ouverture des frontières avec les vins espagnols, italiens, qui étaient beaucoup moins chers, il y a eu des émeutes, il y a même eu des morts. Hein,
exactement,
dans les manifestations.
Et donc, imaginez l'émergence d'un vin qui n'est pas reconnu comme un grand vin, mais comme un grand cru, dans ces mêmes années, avec aucune appellation, au départ vin de table, ensuite vin de pays, un peu aussi à cause de l'encépagement choisi. Quand vous plantez du Cabernet Sauvignon, du Pinot Noir, du Nebbiolo, du Dolcetto en Languedoc, vous avez peu de chances d'avoir une appellation, mais qui se retrouve en moins de 10 ans sur toutes les grandes tables du monde. Tous les grands importateurs des pays consommateurs de vin sont venus voir mes parents, et rapidement, le Domagassac se retrouve parmi les plus grands sur les grands marchés du vin du monde entier. Parallèlement, environ 15 ans plus tard, mon père, interpellé par les arrachages qui se faisaient à foison dans cette région, je rappelle que dans les années 80, on est rentré dans une phase de surproduction de vin mondial, et l'une des recommandations a été les arrachages. Mais les arrachages, ils ne se sont pas faits à Bordeaux ou en Bourgogne. Vous comprenez
c'était,
bien
que c'était plus qu'une recommandation. On donnait de l'argent exactement aux gens pour qu'ils arrachent, et c'était plus rentable d'arracher que de cultiver.
C'est exactement ça. Et donc, et je vais plus loin, on arrachait souvent dans notre région les plus belles vignes, celles en coteaux, celles qui étaient difficiles à travailler, celles qui avaient plus de 60 ou 70 ans parce qu'elles ne donnaient pas assez. Et donc là, mon père a créé ce second vignoble qui se prénomme Moulin de Gassac, sur la base d'un partenariat avec au départ une trentaine de viticulteurs qui sont rapidement devenus une centaine, à une dizaine de kilomètres de chez nous, sur le plateau de Villeverac. Le plateau de Villeverac, c'est une toute petite commune qui regarde le port de Sète et l'étang de Thau, là où vous trouvez les belles huîtres de Bouzigues. Et ce plateau a permis de effectivement mettre en place la production d'une gamme de vins qui a totalement complété et complémenté l'offre que nous avions sur les grands crus du Domas de Nomagasac par des vins que l'on peut appeler de consommation tous les jours, une trentaine d'étiquettes en rosé, en blanc, en rouge, même des bulles. Le grand avantage de notre région, c'est que il faut se souvenir que le Languedoc-Roussillon est la plus grande région viticole au monde. Si vous prenez toutes les vignes du Languedoc, c'est plus grand que toutes les vignes d'Australie réunies, où ça l'était il y a encore 2-3 ans. Et le coût de la vigne. En 72, quand mes parents achètent Mas Domagassac, ou le Mas Domas, l'hectare de vigne, ça coûte moins de 1000 euros. Et les banques vous prêtent de l'argent à 0% si vous avez un programme pour développer quelque chose. Aujourd'hui, on oscille entre 20 et 25 000 euros l'hectare. À titre de comparaison, en Bourgogne, en Champagne, nord de la Vallée du Rhône, je ne parle pas de Bordeaux, on se rapproche ou on dépasse le million d'euros l'hectare. 25 000 euros, 1 million d'euros d'hectare. Quand vous voyez ce que ça représente dans le coût de la bouteille, c'est ce qui permet aujourd'hui au Languedoc de faire des vins absolument imbattable en rapport qualité-prix pour une bouteille de 10 que vous allez payer 10 euros en Languedoc. Si c'est une belle bouteille, vous paierez au moins 15 pour un bon Côte-du-Rhône et 20 ou 25 en Bourgogne. C'est pas la faute et c'est pas un côté cupide du vigneron, c'est juste que le coût de la terre chez nous reste encore très très abordable et permet de faire des vins de qualité. Maintenant que la qualité des vignerons et la vinification est arrivée à un niveau où c'est très difficile de faire du mauvais vin, aujourd'hui, c'est en Languedoc qu'on trouve les meilleurs rapports qualité-prix et de loin.
Alors justement, Samuel, vous évoquez les terres. Vous évoquez les terres et un sujet qui nous intéresse tous, qui vous intéresse en particulier, c'est votre engagement par rapport au respect de votre environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est une histoire qui repart à l'époque où on ne parlait pas de vin organique ou de culture organique. On remonte aux années 70, là aussi. Mes parents étaient, ou surtout ma mère était une visionnaire. À partir du moment où elle a choisi cette terre pour y vivre, je rappelle que Mas Domas et le mot Gassac, c'est le nom de la rivière qui coule au milieu de cette petite vallée magique. Cette rivière, elle a une source sur le domaine, d'où nous avons notre forage, où on boit l'eau encore aujourd'hui de ce forage. Si demain, ou en 70 ou en 80, on avait commencé à utiliser les pesticides, les produits chimiques, les Roundup qui étaient à la mode, nous étions la première chose affectée, ce sont les aquifères, les réserves d'eau souterraines, avant même la vigne. Donc, dès le départ, il y a eu cette volonté de préserver le jardin qui nous entourait, si vous voulez, la nature qui nous entourait. Et je préfère parler de respect total de la nature plutôt que de définir par des labels. Mais effectivement, il y a eu un refus de la chimie, du pesticide. Et la grande chance, c'est que la famille Domas, qui était fermier pendant 10 générations avant nous ici, n'avait jamais connu ça. Encore quand nous sommes arrivés, quand mes parents sont arrivés, ils travaillaient encore au cheval. Ils n'avaient pas d'électricité. L'eau, elle sortait du puits. Et donc, le mot chimie, pesticide, ils ne connaissaient pas. Donc, on a hérité depuis toujours. La vallée du Gassac n'a jamais vu la chimie, ce qui est une très, très grande chance quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres terres, que ce soit des terres à vignes ou pas. Aujourd'hui, depuis 10 ans ou 15 ans, il y a un gros travail pour revenir à la vie. Mais on sait que quand on a balancé de la chimie pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, ça met du temps avant de réintroduire la vie dans la terre.
Ouais. Ouais, Et donc, vous êtes toujours sur cette lancée d'éviter les intrants chimiques et les...
Alors, non seulement on est sur cette lancée, mais on essaie d'aller plus loin. Le vignoble représente 50 hectares. Au lieu d'avoir une seule vigne sur 50 hectares, on a 63 parcelles de vignes, un peu comme des clairières au milieu de la forêt. Cette forêt agit comme une ceinture protectrice de chaque petite vigne. Donc, on n'a pas le risque, on diminue le risque, surtout par rapport aux voisins. Certains utilisent la chimie ou certains, au contraire, ont abandonné leur vigne si la maladie se propage. Par contre, si vous avez 10 mètres de garrigues, de chênes mêlés à un peu de lavande, du romarin, du thym, etc., vous avez une barrière naturelle. Nous avons réintroduit l'agroforesterie, mais surtout l'utilisation des moutons, un cheptel de moutons, pour, tant que les bourgeons ne sortent pas, utiliser à la fois leur faculté à bouffer l'herbe et en même temps amener de l'engrais naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc. Ouais. Les labours au cheval cheval sont utilisés aussi sur les terres qui le permettent. Sur la caillasse, on peut pas labourer au cheval, sinon on tue le cheval. Mais on a cette volonté de chaque fois que l'on peut, pas forcément faire de l'ancien pour faire de l'ancien, hein, mais chercher le meilleur avec le moins d'interventionnisme possible.
En plus, le cheval, il va beaucoup préserver votre sol parce qu'il va pas l'écraser, il va pas le compacter comme un tracteur qui fait 1,5 tonnes.
Exactement.
Et on sait que labourer, c'est inutile. Quand je dis c'est inutile, labourer profond, ça sert à rien. Quoi.
C'est même pas du latour, c'est du grattage.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est comme si on voulait mettre des poissons qui vivent à 100 mètres d'altitude, à 100 mètres de profondeur. Si on voulait les mettre sur le premier mètre, ils vont mourir tout de suite et inversement. Et la terre, c'est pareil. C'est-à-dire que le sol, c'est les 5 premiers centimètres qui sont vivants. Après, le reste... C'est beaucoup moins utile.
L'idée, c'est faire du grattage, aussi ensevelir toute la matière organique. Donc, en ce moment, si vous passez dans nos vignes, vous allez voir de l'herbe sur 30 cm. Cette herbe va être coupée dans la semaine qui vient, coupée ou couchée, et derrière un petit grattage qui permet d'enfouir cette matière organique et donc de rester dans une approche totalement naturelle ou respectueuse de la nature. La même chose dans les chais, hein, nous n'utilisons pas de levure exogène, ce sont des levures indigènes et tout le travail est fait pour respecter le fruit quand il arrive après la vendange et intervenir le moins possible, en sachant quand même que le vigneron a un rôle, c'est-à-dire que le vin ne se fait pas tout seul, c'est pas juste mettre quelques raisins au fond d'une cuve et laisser faire. Il y a le vigneron agit comme un guide et évite certaines déviances. L'idée, c'est d'éviter certaines déviances, mais aussi d'accomplir, surtout quand il s'agit d'un grand cru, d'accomplir la vinification parfaite, c'est-à-dire prendre les éléments, ça peut être l'acidité, les tanins, le fruit, le bois, si on utilise le bois, et faire en sorte que tout ça se retrouve dans un côté sphérique. Si on a des épines qui sortent, si l'acidité ressort trop, le tanin trop, l'alcool trop, ou le bois trop, c'est pas bon. Si on arrive à mélanger tout ça ou faire en sorte que tout ça s'harmonise, là, on a un vin qui fait plus que tenir la route.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Alors, on parlait des vignes, et justement, on connaît la crise qu'on subit en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des effets du confinement sur le travail de la vigne? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre activité normale?
Alors, on ne peut pas mettre en carton ou travailler dans la vigne en télétravail. Ça, c'est pas possible. Donc, nous avons maintenu nos équipes avec des règles drastiques. Hein, au départ, chacun son véhicule. Tout d'un coup, l'endroit où il déjeunait, si vous voulez, les personnes devaient arriver devant le hangar pour le travail le matin à des heures différentes pour pas se rencontrer, faire le point avec leur chef d'équipe à 2 mètres de distance. Et durant toute la durée du confinement, on gardait un seul véhicule avec leurs outils, lingettes et compagnie, de manière à ce qu'ils soient totalement autonomes, reçoivent leurs instructions soit par Zoom, soit par des réunions qui se font. Tout est en extérieur, hein, donc et ensuite un travail où une seule personne va sur une seule parcelle. Comme je l'ai dit plus tôt, là, notre grande chance, c'est qu'on a 63 petites parcelles, donc il est facile de disséminer les 10 personnes qui ont travaillé non-stop dans la vigne sur chaque parcelle sans qu'elles se rencontrent. Voilà un peu
donc,
comment
ouais, ça change pas énormément dans la
ça
vie
change
à la campagne,
pas énormément.
C'est pas...
Non, on n'est pas. Par contre, les bureaux ont été fermés, tout le monde était en télétravail. Seules 2 personnes en cave pour travailler le vin et en même temps préparer les commandes qui continuaient à arriver sont restées. Mais là, pareil.
Les commandes, elles n'ont pas fléchi pas...
Ah, si, énormément fléchi. On a la chance de nous appuyer sur trois départements. Hein, le département export, qui représente environ 50% de notre activité. Il est passé à 20% de son activité normale, même si on a la chance aussi que tous nos grands crus sont prévendus. Donc, ils ont été prévendus en septembre dernier. Aujourd'hui, on n'a pas à les prévendre. Par contre, on voit bien que les enlèvements se font de manière très lente. Aujourd'hui, normalement, on aurait dû avoir 70% des allocations enlevées. On en est à 30%. Certains pays, ou certains, même pas pays, États ont continué à pas mal marcher. Je pense à tout, et surtout des clients qui travaillaient avec avec le client privé. Notre importateur en Hollande, par exemple, 80% de son activité, c'est les clients privés. En Suisse, c'est pareil. Et là, on voit qu'il y a du mouvement. On a vu aussi certains de nos importateurs mettre le focus, un énorme focus la restauration étant finie. À New York, par exemple, notre importateur, qui normalement fait 50% restauration, 50% retail, donc des wine shops, a réussi à conserver 75% de son activité. Ça veut dire qu'ils ont vraiment mis le focus sur les wine shops et sur de la clientèle privée et ils s'en sortent bien. François au Portugal, pareil, a continué à nous passer commande.
Jamais été aussi riche, François.
Donc, on a la France, les clients français se sont arrêtés jusqu'à il y a 2 semaines. Là, depuis 2 semaines, ça repart. Et puis, notre troisième département, c'est que nous avons nous-mêmes un gros fichier de clients privés fidèles depuis 30 ans, bâti par mes parents depuis 40 ans, je dois dire, et qui nous ont même relancé au début en disant « on peut plus aller acheter du vin chez notre caviste, est-ce que vous pouvez nous en envoyer ?» Donc, on a fait plusieurs offres qui ont plutôt bien marché sur ces 2 derniers mois. Ce qui m'inquiète plus, c'est la sortie du déconfinement, plus que déconfinement. C'est comment on va maintenant… avancer et relancer tout ça.
Ça doit être dur en plus, parce que vu le nombre d'hectares que vous avez, vous, les 100 km, vous les avez déjà. Donc, comment vous faites ensuite? Vous ne pouvez même pas sortir de votre...
Non, je plaisante un petit peu, mais... Oui et non, sur le Mas d'Aumas, on n'est pas à 100 km. 100 km de chez moi, ça m'amène à Narbonne. Donc, il y a quand même de la place pour bouger. Mais c'est le département de l'Hérault. On n'est pas, malheureusement ou heureusement, on n'a pas la totalité du vignoble de l'Hérault sous notre contrôle.
Vous n'êtes pas Samuel Scali?
Non. Bah, Scali, vous savez, il a plié boutique il y a déjà quelques années. Hein.
Ouais.
Il avait sa fortune était faite plutôt dans les pâtes que dans le vin, mais
non, mais si vous avez des kilomètres d'entrepôt, c'est pour ça.
Oui, à 7.
Ouais.
Mais en tout cas, vous êtes un super ambassadeur de la région. Moi, je sais que il y a quelques années, il y avait une personne qui était quand même l'ambassadeur de la région. Donc
Georges Fraîche.
Oui, je pense à lui parce que ça a quand même été une très très forte personnalité. C'était une pointure. Il a quand même fait parler de la région en créant d'ailleurs que ce soit à New York ou dans d'autres endroits des maisons des régions. Donc je pense que ça vous a fortement peut-être aidé. Je ne sais pas si à l'époque ça a permis de le développement, mais c'est vrai, quand on parlait des vins du Languedoc, ils étaient relativement considérés comme des vins cheap, comme vous l'avez d'ailleurs très bien abordé, et qu'aujourd'hui ces vins ont trouvé leur lettre de noblesse et vous en êtes véritablement un excellent ambassadeur.
Et un pionnier, c'est un des domaines pionniers qui est parmi les premiers à avoir résolu de faire de la qualité en Languedoc. Et ce que je trouve très, très fort en Languedoc, moi qui suis bourguignon, c'est que les appellations, etc., maintenant, c'est, la question ne se pose plus. C'est le vigneron, quoi. Hein. Si on enlève le Pic Saint-Loup, peut-être qu'il y a quelques amateurs, mais les plus beaux vins de Languedoc ne sont pas les plus belles appellations, ce sont le fruit du travail des meilleurs vignerons.
Vous avez raison, les appellations, alors il y a des appellations historiques, hein, Saint-Chinian, Limoux, ouais, etc., mais elles n'ont pas réussi à s'imposer malgré le fait qu'elles soient historiques. D'autres plus nouvelles… Pic Saint-Loup a été très à la mode, je parle du marché surtout français ces 15 dernières années. Aujourd'hui, il est un peu supplanté par une autre appellation, les Terrasses du Larzac, qui est en fait l'appellation qui nous adosse, où on est juste à côté, on pourrait en faire partie si notre encépagement n'était pas celui qu'il est, et qui a vraiment le vent en poupe depuis 5, 6, 7 ans. Mais vous avez raison, au final… On parle surtout de quelques grands noms, ouais, Lagrange des Pères, Olivier Julien, Domaine d'Aupillac, Mas de Magassac, etc. Domaine d'Ortus, qui est aussi un historique. Et c'est une terre, c'est un Eldorado où tout est possible, en fait. On n'est pas contraint par des règles qui existent depuis des centaines et des centaines d'années, ou des appellations, ou des encépagements. Si vous voulez faire pousser du Chenin blanc en Languedoc, vous pouvez. Après, est-ce qu'il sera bon, c'est tout le débat. Mais il n'y a pas de limite dans ce vignoble ou cette région.
Ça ressemble d'ailleurs un peu aux Amériques du Sud ou du Nord, l'Australie, alors, etc. Ou n'importe
le sud de la France, le Languedoc a été qualifié à une époque de New World Region of the Old World, la région Nouveau Monde de l'Ancien Monde, justement parce que c'était la région où tout était possible, surtout dans ce sens-là. Et donc, il y a eu des abus et puis il y a eu des réussites, hein, comme dans tous les sens. Mais c'est une région qui, aujourd'hui, je pense, pour celui… alors, vous aurez toujours ceux qui sont prêts à mettre 300, 400, 500, 600 euros dans une bouteille, un grand cru bordelais, un grand cru bourguignon. Après, le problème, c'est… Si on parle de la Bourgogne, c'est des toutes petites quantités, donc est-ce qu'il est possible d'en avoir ? En Languedoc, on a aujourd'hui, sans se ruiner, la possibilité d'avoir des vins d'une qualité, mais absolument fantastique. Ouais. Moi, j'ai beaucoup voyagé de par mon rôle export, et je crois que le rapport qualité-prix aujourd'hui, on a parlé à une époque du Chili, l'Australie, aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est le Languedoc qui a la primeur. Ça tournera peut-être, hein, mais je pense qu'on est vraiment la région qui propose les vins les plus intéressants, que ce soit à 5 euros, à 10 euros, à 50. Après, tout dépend du vignoble et du vigneron. Ça, je vous l'accorde.
Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai payé des vins de table, 15 euros. Ouais. Et j'étais à genoux devant ce vin. C'est impossible dans une
région. C'est François qui fait du bruit, là.
C'est François qui sonne.
Ouais. C'est François qui sonne.
C'est moi. Je suis désolé.
Et donc, c'était. Bon, en tout cas, Samuel, merci beaucoup. Merci pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. On était ravis de vous accueillir.
C'était passionnant.
Non seulement c'était passionnant, c'était riche d'informations. On a appris plein de choses. Je le répète, vous êtes un super ambassadeur. De toute façon, on en fera un podcast parce que je pense qu'il y a plein d'éléments dedans, enfin, plein d'informations qui sont très utiles pour toutes les personnes qui aime parler de.
Je dis oui, c'était un super qui aime parler moment du vin.
Et on tenait vraiment à vous remercier. Remercier en même temps François de Blood Wine, toujours.
Qui tient à votre disposition les vins du.
Et qui a toujours les meilleurs vins. Voilà, donc on fera un post tout particulier justement pour en parler. Je pense qu'on le fera la semaine prochaine. Comme ça, demain, on publiera bien entendu déjà cette interview qui est adossée évidemment à la quotidienne qui est en direct. Mais la semaine prochaine, je pense qu'avec Jean-Guillaume, on va trouver une place justement pour pouvoir faire un poste tout particulier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si un jour on est de passage dans votre région, eh bien, en tout cas, ce sera avec plaisir. Et puis, François, préparez. Voilà, il nous a tellement donné envie, hein, donc il va falloir qu'on se fasse livrer ou qu'on passe vous voir. Bon, en tout cas, on rappelle, c'est le principe réel.
Cher Thierry, j'ai reçu tous les vins du Mas de Magassac en fin de semaine dernière. Donc, vous êtes le bienvenu.
Voilà.
Je voudrais remercier Samuel parce que, vous voyez, c'est, quand on parle de vin, de passion, les hommes et les femmes qui font le vin ont eux-mêmes une passion et ça nous donne envie. Ça nous donne envie d'apprendre, de présenter, de parler aussi bien de leur région, de leur vin. Et c'est toujours des grands moments. Donc, merci Samuel.
Merci à toi François et à bientôt. Et bonne dégustation.
Merci.
Avec plaisir.
Merci à vous.